franceinter.fr.
Marcel !
L'amour le plus exclusif pour une personne est toujours l'amour d'autre chose.
Oh. Albertine, je l'avais retirée de la scène et mise à l'abri des désirs de tous.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
L'amour le plus exclusif pour une personne est toujours l'amour d'autre chose. Nous sommes dans la deuxième partie de la recherche, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Le narrateur vient juste de rencontrer Albertine et ses amis à Balbec. Il y a le ciel, le soleil, la mer et ces jolies demoiselles qui ont le pouvoir de redonner un peu d'espoir à notre héros trop souvent mélancolique. Il affirme d'emblée les aimer toutes, mais ne sait pas si ce serait le cas dans d'autres circonstances. Par exemple, s'il n'y avait pas ce beau paysage normand, justement, son regard aurait-il accroché leur corps? Se serait-il même arrêté sur elles? Aime-t-il ces jeunes filles ou aime-t-il surtout l'atmosphère qui les entoure? Grande question et grand drame du narrateur qui pense aimer, qui croit aimer, mais qui passe le plus souvent à côté de l'amour même. Pour cette dernière émission consacrée à l'amour chez Proust, c'est donc de l'illusion dont nous allons parler, du fantasme, du mirage amoureux à l'œuvre dans la recherche. Qu'aime-t-on vraiment quand on aime ? S'interroge à juste titre Nicolas Grimaldi dans son ouvrage « Les métamorphoses de l'amour ». Une question que se pose aussi le narrateur, Marcel Proust bien sûr, et bien d'autres avant lui.
Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »
Bonsoir Nicolas Grimaldi.
Bonsoir.
Alors Guillaume Gallienne nous lisait à l'instant un extrait célèbre de la pièce d'Alfred de Musset, « On ne badine pas avec l'amour ». Et cette phrase finale, je voudrais qu'on s'y penche un peu. « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé ». Je ne suis pas certaine que les personnages de la recherche pourraient dire la même chose. Oui, ils ont souffert, ils se sont trompés, mais ont-ils réellement aimé ?
Vous avez tout à fait raison. Ils n'ont pas véritablement aimé et... À la différence de Musset, ils ont beaucoup moins été trompés qu'ils ne se sentent eux-mêmes trompés. L'amour, à l'inverse de Musset, l'amour est toujours décrit chez Proust comme une maladie, un mal inguérissable, une sorte de folie, de torture réciproque. Ce sont des citations. L'amour est tout le contraire d'un bonheur. Car l'amour n'est lié qu'à l'attente, l'attente est liée à l'absence. Donc il n'y a d'amour qu'inquiet, angoissé, jaloux, mais la possession, par ailleurs, qui devrait le rendre heureux, l'éteint. Il n'y a plus d'amour aussitôt que nous possédons. Ce qui fait que, comme chez Schopenhauer, on alterne indéfiniment chez Proust, l'amour alterne de la souffrance à l'ennui. Elle est absente, je m'angoisse, je souffre, elle est présente, je m'ennuie et je souffre de ne pas la quitter. C'est le malheur, il n'y a pas d'amour heureux, pas plus chez Proust que chez Aragon.
En fait, on a l'impression que dès le départ, pour Proust, pour le narrateur surtout, l'amour se construit en fait sur un malentendu, sur une fausse idée de la personne. C'est le cas par exemple pour la duchesse de Guermantes, que le narrateur enfant rêve de rencontrer, idolâtre, fantasme. Et quand il la voit enfin, il a cette phrase formidable « Mais ce n'est que ça, madame de Guermantes ». Donc la déception rattrape double très rapidement l'enthousiasme.
Vous avez tout à fait raison. l'amour, si j'ose employer ce mot savant, l'amour est métonymique. Ce qu'on aime dans une personne, c'est autre chose qu'elle-même. Elle n'est que l'emblème, l'effigie, le prétexte de tous ceux que nous rêvons autour d'elle. Par exemple, Madame de Guermantes nous paraît l'incarnation contemporaine de ces seigneurs qu'on voyait sur les vitraux de Gilbert le Mauvais à Combray, ou la propriétaire de ce château bruissant d'eau et environné de fleurs qu'on voyait au bout des chemins à Combray, le château des Guermantes. Les jeunes filles, comme vous l'avez très justement rappelé, sont toutes le fascinent parce que toutes sont associées à l'idée de la liberté, de l'insolence, de la santé, car il est un petit jeune homme maladif, couvé par sa grand-mère, qui ne se permet aucun exercice, et elles sont pour lui emblématiques de la liberté. Et en même temps, il imagine que puisqu'elles sont si libres, elles sont également très certainement libertines, ont une sensualité effrénée, etc., etc.
Alors, il y a quelque chose aussi dont je voudrais parler avec vous, c'est le fait que le narrateur dit souvent « je t'aime ». Il le dit un peu à l'emporte-pièce, enfin, surtout à Albertine, il dit « je t'aime ». Non, je ne t'aime plus. Finalement, ces mots perdent de leur sens dans ce livre. Et c'est aussi révélateur de cet amour comme fantasme et comme illusion.
Enfin, il est très frappant que, avant que le narrateur, un jour, ne fasse appeler à Albertine, et, contrairement à ce qu'il attendait, et il attendait parce que c'était toujours passé comme ça, elle ne vient pas. Et il a cette découverte qui, après tout, n'est pas très révélatrice, que si elle est absente ici, elle doit être présente ailleurs. Et si elle est présente ailleurs, que fait-elle? Avec qui? Et si elle n'a pas quitté cet ailleurs, c'est qu'il y trouve un plaisir qu'elle ne trouve pas auprès de lui. Ce qui ne le surprend pas, car il y a, il faudrait l'ajouter, au fond de l'amour chez Proust, mais aussi au fond de la jalousie, une secrète dépréciation de soi. Pourquoi resterait-elle près de moi, alors que moi-même, je m'ennuie avec moi? De sorte qu'il ne serait pas surprenant qu'elle trouve ailleurs plus de plaisir, plus de joie, une vie plus intense que celle que je peux lui procurer ou qu'elle peut le trouver auprès de moi. Donc l'amour est suscité par cette douleur de ne pas retrouver un bien qu'on avait cru posséder ou qu'on avait cru à sa disposition.
Alors j'aimerais vous faire écouter une très belle page de la recherche. Nous sommes dans un amour de Swann. On y revient beaucoup à ce premier tome, hein, mais tout est là, en quelque sorte. Swann est amoureux, en tout cas le croit-il, d'Odette. Leur histoire est relatée dans cette seconde partie du roman. Ils se marieront plus tard. Pour l'instant, le voici chez elle. Il lui apporte une gravure dont il lui avait parlé. C'est une reproduction d'une fresque de Sandro Di Mariano, alias Botticelli. Et sur cette fresque est représentée Zéphora, épouse de Moïse et fille de Jéthro.
Il la regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès lors, il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle. Et bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'œuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Swann se reprocha d'avoir méconnu le prix d'un être qui eût paru adorable au grand Sandro, et il se félicita que le plaisir qu'il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu'en associant la pensée d'Odette à ses rêves de bonheur, il ne s'était pas résigné à un pis-aller aussi imparfait qu'il l'avait cru jusqu'ici, puisqu'elle contentait en lui ses goûts d'art les plus raffinés. Il oubliait qu'Odette n'était pas plus pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son désir avait toujours été orienté dans un sens opposé à ses goûts esthétiques. Le mot d'œuvre florentine rendit un grand service à Swann. Il lui permit, comme un titre, de faire pénétrer l'image d'Odette dans un monde de rêves où elle n'avait pas eu accès jusqu'ici et où elle s'imprégna de noblesse. Il plaça sur sa table de travail, comme une photographie d'Odette, une reproduction de la fille de Jéthro. Il admirait les grands yeux, le délicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite, les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguées, et adaptant ce qu'il trouvait beau jusque-là d'une façon esthétique à l'idée d'une femme vivante, il le transformait en mérite physique, qu'il se félicitait de trouver réuni dans un être qu'il pourrait posséder. cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'œuvre que nous regardons, maintenant qu'il connaissait l'original charnel de la fille de Jéthro, elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps de dette ne lui avait pas d'abord inspiré. Quand il avait regardé longtemps ce Botticelli, il pensait à son Botticelli à lui, qu'il trouvait plus beau encore, et approchant de lui la photographie de Zéphora, il croyait serrer Odette contre son cœur.
André Dussolier nous lisait ce très beau texte où Swann retrouve Odette en quelque sorte dans cette fresque et l'assimile au visage de Zéphora. Il y a quelque chose de pathétique dans l'idée que finalement ces personnages ont poursuivi des fantômes.
C'est le mot qu'il emploie. Swann n'avait poursuivi dans toute sa vie que des fantômes. Mais ce texte de très célèbre, très canonique, est en même temps très, très expressif du caractère métonymique, du caractère métaphorique et, si j'ose dire, presque fétichiste de l'amour chez Proust. Il faut se rappeler deux choses. D'une part, que depuis le premier moment où il avait vu, Odette n'avait jamais plus à Swann. Physiquement, je cite, elle suscitait plutôt de la répulsion. Et aussi n'y avait-il rien qui lui parut aussi abominable que de l'avoir pour maîtresse. Son teint fané, son regard trop expressif.
Il n'est pas tendre avec elle. Hein.
C'est cela. N'est-ce pas ? Le dégoûtait plutôt. Et aussi, dira-t-il à la fin, c'était, j'ai perdu ma vie pour une femme qui n'était pas mon genre, mais elle ne l'avait jamais été, son genre. Sauf qu'il y a cet intermède de transfiguration. Il se rend compte, soudain, de la ressemblance d'Odette avec ce personnage peint par Botticelli dans une fresque de la chapelle Sixtine, où elle incarne le personnage Jéthro. Or, il faut se rappeler que Swann est un amateur d'art, passionné de peinture, et que c'est comme s'il avait soudain, imprévisiblement, à sa plus grande surprise, découvert un chef-d'œuvre au marché aux puces. Ce chef-d'œuvre, c'est un vrai Botticelli, mais c'est mieux qu'un Botticelli, puisque c'est l'original. Ce personnage qui avait fasciné Botticelli, au point qu'il est allé le chercher sur les rives de l'Arno, ou à Rome, ou du Tibre. Et Swann se dit, comment pourrais-je rester, moi, indifférent à ce qui avait fasciné le grand Botticelli? Et ce qu'il voit désormais en elle, c'est non pas ce qu'il perçoit, la réalité qu'il en dégoûtait naguère, mais c'est ce qu'il en émerveille aujourd'hui, à savoir le chef-d'œuvre réel de ce qui avait fasciné Botticelli. Et ce qu'il voit en elle, c'est précisément l'idéal florentin de l'esthétique des Quatre Châteaux.
Swann, amoureux d'un idéal, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre concernant l'amour? Si tous les personnages sont amoureux de leurs idéaux, de leurs fantasmes, quel espoir y a-t-il dans ce livre qui, à mon sens, est assez pessimiste sur l'amour?
Si j'osais dire, la leçon qu'on tire de la lecture de Proust, c'est que si l'amour n'est pas l'amour d'une personne pour elle-même et indépendamment de quoi qu'il puisse lui arriver, il ne peut être l'amour que d'une image et n'être donc qu'un amour imaginaire. De sorte qu'on sort de l'amour comme on sort d'un rêve. On se réveille et on se rend compte, c'est ce qui est également le propre de la jalousie d'escalier. Si Albertine n'avait pas du tout été la bonne jeune fille que j'imaginais qu'elle était, qu'ai-je donc aimé? Avec qui ai-je donc vécu? Si elle n'avait aucune réalité, quelle réalité pourrait avoir mon amour, puisqu'il était l'amour de personne? Et par conséquent, ma vie n'avait pas eu plus de réalité qu'un rêve.
Alors, le seul amour qui semble survivre, en tout cas qui semble ne pas décevoir, c'est celui de la mère.
Oui, le seul amour qui soit un amour, c'est-à-dire un amour généreux, qui aime l'autre, non pas pour soi, mais pour lui, qui est tout prêt à se sacrifier pour lui, et qui n'a pas besoin de représentation, qui n'a pas besoin de raison pour aimer, au point qu'elle sent aussitôt ce qu'il sent. Appelle-t-il de la fièvre qu'elle frappe à sa cloison? Elle le sent. C'est un amour qui n'est non pas du côté de la représentation, toujours séparé de son objet, mais du côté de la vie, car la vie, c'est ce qui se communique. C'est la diffusion immédiate de la sensibilité. D'ailleurs, il est frappant de remarquer que les émotions, généralement, sont contagieuses.
Merci beaucoup Nicolas Grimaldi d'avoir été à mes côtés toute cette semaine. Je rappelle que votre livre « Les métamorphoses de l'amour » a paru chez Grasset et que le dernier en date, toujours chez Grasset, s'intitule « Les théorèmes du moi ». La semaine prochaine, je serai en compagnie de la psychanalyste et romancière Julia Kristeva qui nous parlera des pouvoirs de l'imagination. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Tu peux changer ce que tu désires. T'ouvrir aux autres, te mettre à nu. Lâche prise. Laisse tomber tes illusions.
Avec Canet, merci Laurel Maki, on était avec Proust lundi, avec Julia Kristeva, lectrice de Proust. Tout de suite, Vincent Josse, l'atelier fantôme de Marguerite Duras, une nouvelle diffusion du 3 mars 2012.